C'est Parasha qui a sept premières makot. La semaine prochaine, dans Parashat Bo, on aura les trois dernières. Bon, ça commence avec. On va pas s'appesantir sur le début, mais donc ça commence de façon assez tragique, puisque on commence avec ce qui a été dit à Moshe Rabbeinu à la fin de la paracha dernière. Quand Moshe Rabbeinu est intervenu et il a fait des reproches à Hachem, il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas sauvé le peuple ?» etc. « Puisque depuis que tu m'as envoyé, la situation des Bnei Israël s'est aggravée. D'accord ? Avant, ils faisaient les briques, on leur fournissait la paille. Maintenant, ils doivent aller chercher la paille eux-mêmes. Donc, ils sont complètement épuisés et ils n'arrivent pas à remplir le quota. Il n'a pas changé, c'est toujours le même quota. Ils n'arrivent pas à le remplir. Et enfin, il faut dire en passant que c'était organisé de telle sorte que il y avait les gens qui travaillaient et au-dessus d'eux, il y avait un groupe, il y avait des juifs qui étaient responsables, des hébreux, qui restent responsables de chaque, d'un groupe de juifs, en fait, d'un groupe d'hébreux. Et encore au-dessus de chacun de ces responsables hébreux, il y avait un responsable égyptien. Et quand le quota n'était pas atteint, alors l'Égyptien, il faisait des reproches à l'hébreu responsable, qui ensuite, normalement, transmettait les reproches. Mais là, les responsables, ils ont pris le parti de ne pas transmettre et de prendre sur eux la colère de l'Égyptien qui ne recevait pas le quota. Et parce qu'ils ont agi de cette manière, parce qu'ils comprenaient que, par empathie, ils comprenaient que les Hébreux n'y arrivaient pas, ce n'était pas possible de faire ce qu'on leur demandait de faire. Et parce que ces gens-là se sont impliqués, ils ont eu cette empathie, ce sont eux qui ont été désignés pour, quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, pour constituer l'espèce de Sanhédrin, d'accord, parce qu'ils étaient responsables, ils s'étaient montrés responsables, ce sont eux qui ont été désignés comme les responsables par la suite du clan Israël. Et alors, Hachem a dit à Moshe, il lui a dit à la fin de la dernière paracha, il lui a dit, « Ata tiré, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro. » Et seulement dans le mot « ata tiré, mais tu verras pas ce que je ferai au moment de la conquête d'Eretz Israël, tous les miracles que je ferai pour les Bnei Israël. Cela, tu ne les verras pas parce que tu n'entreras pas en Eretz Israël. » Et donc, cette remarque critique de Moshe Rabbeinu, elle n'a pas plu du tout à Hachem. Et donc, ça lui a coûté à Moshe Rabbeinu son entrée en Eretz Israël. Et Hachem va dire à Moshe, il va lui dire, Rashi va le rapporter, notre Hazal, j'ai parlé au Avot avant toi, donc j'ai parlé au Avot, mais au Avot je me suis fait connaître par mon nom Kel Shakai. Ce nom de Kel Shakai, c'est le nom, donc en deux mots, tous les noms divins représentent la façon dont Hachem agit avec le clan d'Israël ou avec le monde. D'accord? Donc c'est ça les noms qui sont utilisés, c'est pas du tout que c'est pas des noms comme qui seraient des caractéristiques de non, c'est seulement des ça dit rien du tout de d'Hachem pour lui-même, ça dit seulement comment Hachem, quelle est la relation d'Hachem avec le monde. C'est ça la fonction des noms. Donc je me suis dévoilé à eux avec mon nom Kel Shakai, qui est le nom j'utilise quand je fais des promesses, mais ce n'est pas le nom que j'utilise quand il s'agit de réaliser les promesses. Et les avot, Concrètement, ils m'ont vu seulement sous le nom de Kel Shakai. C'est, bon, c'est sûr qu'on voit dans la, on a vu dans le Sefer Bereshit apparaître le tétragramme. C'était jamais pour dire que la Hanaga avec eux, c'était ça. C'est, bon. Ça, c'est, le nom divin était utilisé, mais pas du tout dans le sens de où il nous dirait que quelle était la Hanaga à ce moment-là. Et les Avot, non seulement j'aurais fait des promesses, mais j'ai même fait une alliance avec eux. Mais ils n'ont jamais vu le début du commencement, la réalisation des promesses. Ils n'ont jamais rien dit. Ils ont toujours eu une grande patience, ils ont eu confiance en moi avec grande patience. Et toi, Moshe, toi, je t'ai dit qu'on était maintenant dans la phase de réalisation des promesses, et parce que ça ne se réalise pas aussi vite ou de la manière dont toi, tu penses que ça devrait se réaliser, tu me fais des reproches. Hachem utilise, il dit « Chabal al-de'avdin de l'homme ishtakrin ». C'est vraiment très dommage qu'il n'y ait plus de patriarche. Il va falloir faire avec toi. C'est comme si Hachem disait à Moshe, on va faire avec toi par défaut, quoi. Manque de peau. On a rien d'autre, alors on va faire avec toi. C'est absolument tragique. Mais bon, c'est comme ça. Et alors, on entre dans le sujet. Il lui dit, Hachem dit à Moshe, voilà, c'est la phase de réalisation. Maintenant, tu vas, j'ai entendu les plaintes des Bnei Israël. Ça veut dire, j'ai décidé que c'était le moment d'écouter les plaintes. Les plaintes, ça veut dire qu'il y avait un projet divin. La vérité, c'est que ce projet divin, il comprenait 400 ans ou 430 ans de séjour en Égypte et d'esclavage. On est maintenant à 210, on n'est pas du tout à, on n'est pas du tout à 400. Mais donc la plupart des commentateurs expliquent que la dureté de l'exil était telle, l'esclavage était telle, que ça valait 400 ans d'un exil et esclavage tel que il aurait dû avoir lieu. Donc les Égyptiens ont exagéré, ils en ont fait plus que ce qu'ils avaient le droit de faire. Ils avaient le droit de faire travailler les Hébreux, comme on fait travailler les esclaves, mais ils ne pouvaient pas les torturer. Or, en fait, c'était cet exil, cet esclavage, c'était une torture. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Égyptiens vont être punis, en fait. Et parce que c'était comme ça, alors les Bnei Israël vont sortir prématurément. D'autres expliquent qu'effectivement, on va vraiment sortir prématurément parce que les Bnei Israël sont au fameux 40e, 49e degré d'impureté. Et s'ils touchaient un 50e degré, ce serait un billet d'aller sans retour, c'est-à-dire pas de possibilité de les remonter. Et donc, c'est dans l'urgence qu'il a fallu sortir les Bnei Israël. Mais ça veut dire qu'on reste. Il y a un reste à charge pour les Bnei Israël. Et les autres galouillotes qui vont venir après sont des galouillotes qui apparaissent comme venant compléter les fameux 400 ans d'exil qu'on aurait dû avoir en Égypte. Donc il y a plusieurs théories, plusieurs façons de voir les choses. Ils sont peut-être toutes vraies en même temps aussi, d'ailleurs. Donc Hachem dit à Moshe, tu vas aller et tu vas parler à Paro. Pour qu'il laisse partir les Bnei Israël. Mais il faut aussi que les Bnei Israël soient prêts à partir. Donc il faut aussi leur parler à eux. Et tu te présenteras comme tu me représenteras comme celui qui va donner aux Bnei Israël ce qui leur avait été promis, effectivement. Et Vaïdaber Moshe Ken El Bene Israël. Moshe est allé, il a parlé au Bene Israël. Mais, comme dit le Pasouk, Velo Shamu El Moshe. Mais les Bnei Israël n'ont pas écouté Moshe. Par cause de manque de souffle, en fait, souffle court. Et Avoda Kasha. Et aussi travail très dur. Alors, en fait, on ne vient pas dire ici qu'il ne croyait pas à Moshe. Parce que plus loin, on va voir qu'effectivement, ils croyaient. Ils étaient ma'amin. Mais ils ne pouvaient pas entendre ce qu'il leur disait. Il leur disait quand même qu'ils allaient sortir d'Égypte. Et ça, hein, ils n'arrivaient pas à l'entendre. L'oshamou, ils ne pouvaient pas entendre. Alors, qu'on ne puisse pas entendre quand on est rompu de fatigue, quand on est cassé complètement comme les Bnei Israël l'étaient par les travaux qu'on leur faisait faire, ça c'est me'avoda kasha. Ok, on entend qu'on ne puisse pas entendre. On peut entendre ça. Seulement, ici, on peut se demander. Alors, qu'est-ce que c'est le kotser ruach? C'est quoi le souffle court en question? Alors, peut-être c'était qu'effectivement, ils étaient en quelque sorte à bout de souffle en permanence. Et quand on est à bout de souffle, on est occupé à chercher son souffle et on n'a pas d'oreille attentive. On ne peut pas entendre. On n'entendait vraiment pas. Mais si on dit ça, alors ça fait un peu double emploi à la fois le kotser ruach et la avoda kasha. Et peut-être que le ruach dont ils avaient un esprit trop court en fait. Donc si vous voulez, ils pouvaient pas voir à long terme. Ils pouvaient pas envisager le futur. Il n'y avait pas de futur dans la condition d'esclave qui était la leur. Donc, ça n'entrait pas en ligne de compte, si vous voulez. C'était impensable. Il faut faire un travail d'abord pour pouvoir entendre une chose pareille. Et le travail n'avait pas encore été fait. Je vous rappelle, c'est en fait quand le soir du Seder, on mange le karpas, qui est une espèce d'apéritif, de mise en appétit pour la liberté. Et donc, on voit que il faut être mis en appétit pour la liberté. Parce que la condition d'esclave, elle peut être telle que ce à quoi on aspire, c'est une bouteille de bière de plus, quoi. C'est ça l'horizon souhaité. Ce que Moshe leur dit, c'est autre chose. Autre chose. Et pour celle-là, il faut avoir une capacité d'écoute, en fait. Donc, ils n'avaient peut-être pas un ruach suffisant pour entendre. Mais mon cher Rabbeinu, il va utiliser cet argument, enfin cet échec, il va s'attribuer l'échec. Il va dire, l'échec, il vient de ce que je ne sais pas parler. Je ne peux pas parler parce que j'ai une espèce d'écran, une orla sur la bouche, qui fait que je ne peux pas parler. C'est de mon fait. Il va utiliser cette expérience-là pour refuser d'aller parler à Paro. Parce qu'il va dire, les Bnei Israël ne m'ont pas écouté. Eux qui, en fait, pour lesquels ce que j'avais à leur dire, c'était quelque chose de plutôt réjouissant. Bon, c'est difficile à le croire, mais c'est positif. Donc, on peut imaginer que le sujet pouvait les inciter à vraiment écouter. Mais Paro, je viens lui dire le contraire, je viens lui dire renvoie les esclaves. Et si on ne m'entend pas vraiment bien, Paro, il ne m'entendra pas du tout. Erkishmaeni Paro, Vani Aral Svataim. La preuve, c'est que les Israéliens ne m'ont pas entendu non plus. Alors Hachem va cesser de négocier avec, enfin, de discuter avec Moshe. Il va dire, ok, c'est bon. Et maintenant, Vaidaber Hachem, El Moshe, Vel Aaron. Et du coup, Hachem va parler non seulement à Moshe, mais à Aaron aussi. Et il va leur donner l'ordre, Vaid Savem, le Hotsi et Bnei Israël, Meretz Yisraël. Il leur a ordonné de sortir les Bnei Israël d'Égypte. C'est assez intéressant parce que c'est lui qui va sortir les Bnei Israël d'Égypte. Non. On va voir que ça, Hachem a décidé que ça se passerait par Moshe et Aaron. Et on va le voir à l'œuvre dans la suite. Mais si vous regardez le verset là que j'ai cité, mais que j'ai... dont j'ai omis une partie centrale. La phrase, c'est la suivante. Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron. Hachem parle à Moshe et Aaron. Vaïtsavem. Et il leur donne des ordres. Et le contenu, l'ordre, ce sera quoi? L'ordre, ce sera, vous allez sortir le Hotsi et Bnei Israël Meretz Mitzrayim, comme j'ai lu. Mais, Il a donné des ordres qui concernaient la façon dont ils allaient faire sortir les Bnei Israël en parlant avec les Bnei Israël et en parlant avec Paro. Vous allez parler avec les Bnei Israël, vous allez les guider. Rachid dit, vous allez les guider pas n'importe comment. Les hanigam benachat. Vous allez les guider benachat doucement. Doucement, ça veut dire calmement, doucement. Velisbol otam. Et vous aurez l'obligation de les supporter. Vous devrez supporter ces Bnei Israël qui sont insupportables. C'est-à-dire, vous allez sortir les Bnei Israël d'Égypte. Donc, la sortie d'Égypte, elle concerne les Bnei Israël, elle concerne Paro. Et maintenant, votre rôle, vous allez les sortir, effectivement. Mais du coup, je vous prescris la façon dont vous allez parler aux Bnei Israël et dont vous allez parler à Paro. Aux Bnei Israël, vous allez leur parler doucement, calmement. Vous allez être extrêmement patient. Vous allez les supporter. Au sens de, non, ce sera pas facile. Et quant à Paro, ici, dans le texte, c'est marqué qu'il leur a ordonné, Vel Paro, Melech Mitzrayim. Est-ce qu'on avait vraiment besoin, est-ce que la Torah avait vraiment besoin de nous dire que Paro est Melech Mitzrayim? Ça fait un certain bout de temps qu'on le sait. On ne va pas chaque fois qu'on mentionne Paro dire qu'il est le roi d'Égypte, on a compris. On sait bien qui il est. Et pourquoi est-ce que c'est marqué Melech Mitzrayim? Parce que vous allez devoir lui parler en tant que roi d'Égypte. C'est-à-dire, dit Rashi, il leur a ordonné l'achloklo kavod bedivrayem. Vous allez lui parler. Vous allez lui arracher l'accord de... Okay. Va chasser les Bnei Israël. et vous allez lui envoyer des makotes. Mais vous n'avez pas le droit de lui parler de façon méprisante, abaissante. Vous devez lui parler, de lui donner du « Votre Majesté », etc. Tout le kavod qu'on doit donner à un roi. Ça, dit Rashi, ça c'est le midrash en fait. Mais le pshat c'est tzimet al dvar Israël val shlichut shel el paro. Et le contenu de l'ordre, mefourash beparsha shnia lachar seder ayachas. Le contenu, il va être explicité dans une paracha qui va venir plus loin. Parce que, regardez bien le verset. Vous avez ce verset Yud Gimel, qu'on a lu maintenant, et le Yud Dalet, il parle d'autre chose, là. Tout à coup, on est parti. Ele Rashi Bet Avotam Bnei Ruven, Chor Israël, Hanor, Falou, etc. On commence en énumération des gens, des chefs de tribu, etc. Jusqu'à ce que dans l'énumération, au verset Kaf, 20, c'est marqué « Amram prit sa tante Yochebed pour épouse et lui enfanta Aaron ou Moshe. » Et les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Et donc, en vérité, tout ce paragraphe, il est là pour ça, pour ce verset-là, pour présenter, Rashi explique, puisqu'on a parlé maintenant de Aaron et de Moshe, alors il y a un clic, et puis il y a la biographie, enfin pas la biographie, mais l'ascendance, ou le, quoi, bien présenter, bien mettre l'accent sur le fait que Moshe et Aaron ne sont pas des Martiens qui vont tout à coup sortir les Bnei Israël. C'est un peu fou ce qu'Hachem leur donne comme ordre. Vous allez sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ah, putain, c'est quoi ça? Tu prends deux personnes et tu leur donnes. Alors on pourrait penser c'est des surhommes, je ne sais pas, des Martiens, ou si tu préférais Vénus, peu importe. Hein, d'accord? Et pas du tout. Il était fondamental à ce moment-là de nous dire qui sont Moshe et Aaron. Ils sont comme tout le monde. Dans la liste des descendants de Yaakov, ces nouvelles générations-là, voilà, ils ont un papa et une maman. Et on parle du premier mariage d'Abraham et Yocheved ici, puisqu'on dit qu'elle lui a enfanté Aaron. On a déjà vu le pasouk qu'on a vu la semaine dernière. Vayelech Ish, Ibet Levi, Vaikar, Bat Levi, Bat Levi. Un homme de la tribu de Lévi est allé, il a épousé une fille de Lévi là-bas. Ça, c'était le deuxième mariage. Deuxième mariage, puisque on avait dit, Amram avait décidé de divorcer, entraînant ainsi tout le monde à divorcer aussi, parce que ils ont décidé de, on ne va pas avoir des enfants que les Égyptiens vont noyer dans le Nil, s'ils sont des garçons, ils vont nous prendre les filles, etc. Et ensuite, tout le monde sait, Myriam est intervenue et Amram a écouté Myriam et il a réépousé Yocheved. Et à ce moment-là, Moshe est né. Mais là, on n'a pas cité Myriam parce qu'on parle que du Yéhous, on parle de la ligne, elle n'est pas trilinéaire. Donc, on parle que des hommes ici, on ne parle pas des femmes. Et puis justement, à la fin de cette paracha-là, au verset 29, à la Shlishi, à la troisième montée, c'est un peu étrange, la Torah, elle répète quasiment ce qu'elle avait déjà dit. C'est comme si on disait, nous disions donc avant l'interruption dans laquelle je vous ai présenté Moshe et Aaron, il répète, Vayomer, Vaydaber Hashem el Moshe Lemor, Ani Hashem, Daber el Paro, Melech Mitzrayim, et Kol Asher Ani Dover Elecha. Du coup, c'est un résumé, donc en fait, on ne parle qu'à Moshe parce que c'est le fait que Il parle à Moshe et à Aaron, c'est pour les raisons qu'on a dites, parce que Moshe veut pas parler lui-même, alors c'est Aaron qui va parler, mais ça s'adresse à Moshe, c'est Moshe qui reçoit l'or. Aaron, il n'entend pas ce que Hachem dit à Moshe. C'est Moshe qui lui dit à, qui le dit à Aaron. Vayomer Moshe l'ifnei Hachem, en aral, ani aral sfataim, ve'erishmaeli, erishmaelai paro. Comment est-ce que Paro pourrait m'entendre? On a déjà vu ça. C'est comme si, résumé de la situation dans laquelle on était avant l'interruption. Voilà, et maintenant, on continue. Vayomer Hachem el Moshe, voilà. Netaticha Elohim le Paro. Tu vas devenir l'Elohim de Paro. Tu vas devenir le maître de Paro. Le dieu de Paro, le maître, celui qui va dominer Paro. Ve'aron achicha yenevi'echa. Et Aaron, ton frère, il sera ton prophète, ton porte-parole, en quelque sorte. La terminologie est intéressante. Elohim et Navi. C'est comme si donc, c'était possible d'avoir le couple Elohim-Navi parmi les hommes. Le couple Moshe-Aaron, c'est un couple Elohim-Navi. Mais Moshe n'est pas l'Elohim d'Aaron, il est l'Elohim de Paro. C'est-à-dire, Elohim, ici, c'est profane, c'est pas Elohim. Atat daber, et kol asher atzaveka, toi tu parleras, tu diras tout ce que je t'ai ordonné de dire. Mais personne ne comprendra. Enfin, Paro n'entendra pas ce que tu dis. Aaron, lui, va entendre ce que toi, tu dis. Aaron achicha yedaber el Paro. Lui, il parlera à Paro. Et il va lui dire, Veshilach et bnei Israël me'artso. Il va lui parler et il va renvoyer les bnei Israël de son pays. Pas simplement il les laissera partir. Le Shilach, il va les renvoyer. C'est bien ce qui va se passer. Après Makat Bechorot, il va demander, il va dire aux Bnei Israël, sortez, partez. Pas simplement vous pouvez partir. Partez. Alors, on voit très bien que, comme Moshe l'a dit, lui, il ne peut pas parler à Paro. On pourrait dire que la longueur d'onde de la parole de Moshe n'est pas audible pour Paro. Un idolâtre, il ne peut pas entendre la parole de quelqu'un qui va parler avec Hachem. Comme on a dit que, en tant que nourrisson, Moshe ne voulait pas de nourrice égyptienne parce que la bouche qui allait parler avec Hachem, elle ne pouvait pas avoir été au sein d'une nourrice égyptienne. Voilà. La bouche de Moshe Rabbeinu, elle n'est pas audible pour Paro. De même que l'Avdil, Hachem n'est pas audible pour Aaron et pour tout le peuple. Il n'y a que Moshe qui entend Hachem. Donc, au niveau du récepteur, Moshe a un récepteur qui lui permet d'entendre. Personne n'a un récepteur analogue. Et donc, le travail va être fait dans la tête d'Aaron. Aaron, il va recevoir la parole de Moshe et il va la traduire en parole audible pour Paro. Mais Hachem annonce tout de suite la couleur. Ani akshet lev Paro. Mais moi, je vais endurcir le cœur de Paro. Pas tout de suite, mais au moment où Paro va céder parce que les makotes sont trop dures à supporter, Hachem dit, à ce moment-là, je vais l'endurcir. C'est-à-dire, je vais lui donner un antidouleur qui lui permettra de supporter la douleur, la souffrance des makotes, et de la sorte, il sera de nouveau libre, en quelque sorte, de choisir. Il choisira, il fera le mauvais choix. Et je vais multiplier Ototai, Moftai, Beretz Mitzrayim, et toujours Velo Ishma Alechem Paro, Natati et Yadi, Vemitzrayim, Veotseti et Sivotai, et Ami Bnei Israël, je vais sortir mes armées, en fait, et Ami, mon peuple, Bnei Israël. Vous voyez, ici encore, le peuple ne s'appelle pas le peuple d'Israël, mais le peuple des Bnei Israël. Le nom du peuple, c'est Bnei Israël, comme on l'a vu la semaine dernière, comme le disait Paro, et comme ensuite c'est repris. Savoir exactement à quel moment ça change, à quel moment le peuple s'appelle le peuple d'Israël, et plus le peuple des Bnei Israël. Avec des grands jugements. Et l'Égypte saura qu'il y a ni Hachem, Vintoti et Yadi al Mitzrayim, Vintoti et Bnei Israël mitocham. Ok. Alors, Vayas, Moshe, Ve'aaron, vous voyez, c'est au singulier, Vayas, singulier. Normalement, on aurait dû dire Vayas ou Moshe Ve'aaron. Donc, il y a Vayas, Moshe. C'est Moshe qui fait. Aaron, il est le Navi, là. Kacher Siva Hashem Otam. Là, tout à coup, c'est au pluriel. Kenasu, aussi au pluriel. Ou Moshe ben Shmonim Shana, ve Aaron ben Shalosh ou Shmonim Shana, et d'Abraham el Paro. Moshe a 80 ans, Aaron a 3 ans de plus quand il parle à Paro. Alors, il parle à Paro et Hachem leur dit, écoutez, vous allez parler à Paro et Paro va vous dire pourquoi est-ce que je vous croirais. Donnez-moi une preuve de ce que vous dites, en fait. Alors, Hachem dit à Moshe, tu diras à Aaron, et il y a l'épisode où Aaron jette son bâton qui devient un serpent. Mais Paro, il éclate de rire, il amène l'école des magiciens et tous les élèves, ils arrivent avec des bâtons qui en fait sont des serpents drogués. Il les jette par terre, à ce moment-là, le serpent devient un serpent. Et du coup, il regarde pas. S'il avait bien regardé, tel que c'est écrit, c'est que le serpent de Moshe, d'Aaron, est redevenu bâton et c'est en tant que bâton qu'il a avalé leur bâton, leur serpent. C'est plus une histoire, c'est pas un gros serpent qui mange des petits serpents, c'est un bâton qui mange un bâton. Il aurait peut-être dû s'interroger là, mais il n'a pas regardé parce que, bon, c'est rien, tu nous amènes toi de la magie en Égypte alors que c'est nous les spécialistes. En fait, ils sont ridicules parce que les magiciens égyptiens, ils font la même chose. Vayomer Hashem el Moshe, kaved lev paro. Me'an le shalacha. Hashem dit à Moshe, il est le cœur de Paro est lourd. Il est lourd à bouger, quoi. Il a refusé d'envoyer le peuple. Va lui dire, tu vas le matin, il sort, il va au bord du Nil. Et toi, tu iras le matin, tu iras aussi au bord du Nil, tu le trouveras là-bas. Et ce bâton-là, qui est devenu un serpent, etc., tu l'auras dans ta main, et tu lui diras, Hashem Elokei Ivrim, Shlachani. Hachem, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, renvoie mon peuple qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à maintenant, tu ne m'as pas écouté. Alors Hachem dit, tu vas savoir que je suis Hachem et je vais frapper avec mon bâton qui est dans ma main. Je vais frapper sur l'eau. l'eau qui est l'eau du Nil. Et ces eaux vont être changées en sang. Les poissons vont mourir. Le Nil va sentir mauvais, va puer, etc. Et les Égyptiens ne pourront plus boire d'eau. L'eau du Nil. Alors, Hachem dit à Moshe, tu vas, dis tout ça à Aaron, dis-lui de prendre le bâton, et effectivement, d'étendre ce bâton au-dessus de toutes les eaux égyptiennes, et toute l'Égypte va devenir couverte de sang. C'est ce qu'ils ont fait. Ça, cette démonstration, elle a été faite devant Paro et tous ses serviteurs. Donc, les poissons sont morts, etc. Mais les magiciens égyptiens, ils ont fait quelque chose d'analogue. Avec une espèce de magie, ils ont pu faire les choses. Et donc, Paro, il a été renforcé. Il n'a pas écouté, comme Hachem l'avait dit. Et ensuite, Vaïfen Paro, ça veut dire Paro s'est détourné, en fait. Ça veut dire, en fait, pourquoi il fallait aller au bord du Nil? Parce que Paro, qui se prétendait une divinité, il n'avait pas de toilette au palais. Il faisait comme s'il était au-dessus de ces questions-là. Donc tous les matins, il allait se soulager au Nil. Et donc, quand on dit il s'est détourné, ça veut dire qu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Et il est reparti comme si de rien n'était. Mais bon, les gens ont commencé à creuser, etc. Mais ça n'a pas marché. Alors, Hachem a dit à Moshe, tu vas aller, tu vas le. Et dire, si tu refuses, etc., l'Égypte va être envahie de grenouilles. Il y en aura partout, partout. Dans ton lit, dans les fours, partout. Ça deviendra insupportable. Effectivement, ça devient insupportable. Mais les magiciens, ils font la même chose avec leur magie noire, là. Mais néanmoins, ils ne savent pas les retirer après. Et Paro, il appelle Moshe Aaron, il leur dit « Priez Hachem ». Il a une notion de prière. « Priez Hachem pour qu'il écoute, qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai partir le peuple pour qu'il offre le sacrifice à Hachem. » Alors Moshe lui dit « Tu peux décider quand tu veux que ça se passe. » Paro, il s'est dit, mais peut-être que Moshe, il me dit, il compte sur le fait que je vais dire tout de suite, parce qu'il sait que c'est un phénomène naturel et que les grenouilles vont partir de toute manière. Alors, il dit, demain. Alors, Moshe dit, OK, ce sera comme tu veux, demain. Alors, Moshe Aaron sort de chez Paro. Parce qu'on a besoin, évidemment, ils ne vont pas passer leur nuit là-bas et ni leur vie là-bas. Pourquoi on nous dit qu'ils sortent de chez Paro? En vérité, c'est pas chez Paro, ça veut dire qu'ils sont sortis de la ville. Ils sortent de la ville parce que la ville, elle est pleine d'idoles. Et Moshe veut prier, et il ne veut pas prier parmi les idoles. Donc, pour cette raison, il va à chaque fois sortir de la ville. Alors là, ici, on trouve ce que je vous avais dit un peu en passant. Moshe, le texte dit c'est marqué « Vaitzak Moshe el Hashem » Moshe Rabbeinu a crié, il a supplié Hashem « Al dvarat tfardim asher sham le pharaon » au sujet des grenouilles qu'il a mises à Paro. Vayas Kidvar Moshe, Vayomutwa Tsfardeim Minabatim, ils sont morts, ils sont, je ne sais pas, c'est Minachatserot, Minasadot, et on en a fait des tas et des tas. Vativash Haaretz, bon, des tas, et la terre a été empestée par, par toutes ces grenouilles. Mais bon, ça va disparaître, mais Paro qui a vu que, ah bon, ça s'est arrêté, alors l'Oshama, et il n'écoute pas comme Hachem l'a dit. Ce qu'il faut, me semble-t-il, remarquer ici, c'est que, comment est-ce que vous représentez les Makot? Hachem envoie des Makot, a priori, et quand Paro demande que les il dit voilà, je vais laisser partir les Bnei Israël, alors enlever les Makot, bon, ben les Makot, elles devraient disparaître. Or ici, on voit que Moshe Rabbeinu doit supplier Hachem d'enlever les grenouilles. Pourquoi il faut supplier Hachem pour qu'il enlève les grenouilles? Et pourquoi est-ce que c'est Moshe qui est en charge, ça veut dire? Et Hachem fait ce que Moshe a demandé. Le texte le dit. Hachem fait ce que Moshe a demandé. Ça veut dire quoi que Moshe demande? C'est à Moshe à demander que les grenouilles s'en aillent? Il faut qu'il le demande. Hachem n'a pas, quand il avait envoyé les grenouilles, c'était pas prévu que quand, que bon, il allait retirer ensuite, de même qu'il les a envoyées. Mais c'est vrai que il ne les a envoyées que quand Moshe a fait le geste qu'il fallait. Donc, les choses se passent comme s'il y avait deux choses. Moshe fait les gestes et Hachem, il fait les gestes ou la prière. Et Hachem réagit aux gestes ou à la prière de Moshe. Mais les choses, on a l'impression que c'est Moshe qui gère. Mais comme tout, il demande des choses qu'il ne peut pas faire. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. D'abord, ce n'était pas de la magie qu'on faisait ici. Et de toute manière, même s'il a été élevé dans le palais de Paro, etc., mais bon, il n'est pas devenu pour autant un grand magicien, en tout cas, on n'en sait rien, mais. C'est pas présenté comme ça. Donc, il fait des gestes prescrits par Hachem avec le fameux bâton. Et donc, c'est vrai que ça apparaît comme de la magie. Mais après, c'est comme s'il était un espèce de sorcier qui peut faire les choses, mais qui peut pas les arrêter, quoi. Alors, il faut qu'il demande à Hachem qu'il arrête la chose. Quoi. Parce que Moshe Rabbeinu a mis en marche par ses gestes, il doit demander à Hachem de l'arrêter. C'est paradoxal, ça donne à Moshe Rabbeinu une. Il n'est pas simplement l'exécutant d'Hachem, quoi, on a l'impression. C'est lui qui va implorer Hachem. Et Hachem va faire ce que Moshe a demandé, dit le Passouk. Ensuite, il y a le problème, la poussière qui donne des poux, qui deviennent des poux, la vermine. Toute la poussière de la terre se change en poux, dans toute l'Égypte. Mais eux, ils essayent de faire et ça ne marche pas. Là, maintenant, ils ne peuvent plus. Ça ne marche plus. Donc, certains disent que ça ne marche plus parce que la magie, elle ne peut se faire que sur un certain volume. Et les poux, la vermine, c'est trop petit. C'est un volume qui c'est un volume qui marche pas, sur lequel ils n'ont pas de pouvoir. Ils disent, alors, ils disent à Paro, c'est le doigt d'Elohim, ça. C'est pas de la magie. Nous, on est les grands maîtres de la magie. Si c'était de la magie, on pourrait le faire aussi. Là, on peut plus. Donc, c'est le doigt d'Elohim, donc il faut que tu cèdes. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que les magiciens égyptiens. Tu dois céder. Donc, probablement que, du coup, maintenant, la quasi-totalité du peuple veut céder. Parce que ça devient insupportable. Et les magiciens disent, on ne peut pas. Nous, on ne sait pas faire. C'est l'Ezba Elohim. C'est le doigt d'Elohim. Mais Paro, il ne cède pas. De nouveau, ça se passe, la scène se passe au bord du Nil, etc. Let my people go. Et toujours qu'ils me servent. Et puis alors, si tu ne les laisses pas, alors voilà, je vais envoyer des bêtes sauvages. Il y aura des bêtes sauvages partout en Égypte, sauf à Goshen. Là où se trouve la province, la fameuse province que Paro avait donné à Sarah et dans laquelle Yosef avait dit au Bnei Israël, restez dans cette province-là. Dans cette province-là, il n'y a pas de bête sauvage. Alors bon, la terre est dévastée à cause de ces bêtes sauvages. Alors Paro appelle mon cher Aaron et dit, voilà, allez sacrifier les sacrifices à votre Dieu. Dans le pays, vous ne sortez pas. Vous ne franchissez pas les frontières. Alors, Moshe lui dit, on ne peut pas faire ça parce que ce que nous, on va, les sacrifices qu'on va faire, c'est les divinités égyptiennes. Ils vont nous lapider, les Égyptiens, si on fait ça. On ne peut pas. Donc, on va partir à 3 jours. Et on fera ce que notre Dieu nous dira de faire. Bon, je vais vous laisser partir, mais ne vous éloignez pas et priez pour moi. Donc, Moshe lui dit, voilà, je vais sortir, je vais prier, etc. Ça va marcher. Mais ne continue pas à te moquer de nous en ne laissant pas partir le peuple pour offrir les sacrifices à Hachem. Je vous rappelle qu'à aucun moment, Hachem n'avait dit à Moshe qu'il fallait demander à Paro de laisser partir les Bnei Israël pour qu'ils aillent approcher des sacrifices pour Hachem. Il m'a simplement dit, dis-lui de laisser partir. Bon, il n'a pas dit, bon, là, il y a eu la référence éventuellement à la terre d'Israël, mais pas du tout à des sacrifices. C'est étonnant, c'est, semble-t-il, c'est Moshe Rabbeinu et Aaron qui ont décidé de parler de sacrifice, et c'est eux qui ont décidé de parler de 3 jours. Alors que, il n'était pas question de partir pour 3 jours. Mais toute la discussion, elle va se faire sur les 3 jours. Et quand Paro va céder, il va céder pour 3 jours. Et il va envoyer des gens qui vont suivre les Bnei Israël. Et quand les Bnei Israël ont montré qu'au bout de 3 jours, ils n'allaient pas revenir, les gens sont revenus chez Paro et ont dit, ils s'en vont. Hein. Et du coup, Paro est parti rattraper les Bnei Israël, il les a rattrapés, ça a débouché sur la mer Rouge, sur le passage de la mer. Mais parce que ils sont partis définitivement, alors qu'ils n'avaient jamais parlé à Paro de partir définitivement. C'est un sujet sur lequel il faudra qu'on revienne. Là, à un moment donné, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Et du coup, il n'a pas cédé. Et il y a cette peste des animaux qui est venue, etc. Et là, on voit que au verset Zayin, chapitre 9, le pasouk dit Vaishlach paro, vihine lomet mimikne Israël adechad, vichbad lev paro velo shilachtam. Paro, il a envoyé des gens vérifiés à Goshen, et ils sont revenus, ils ont dit, il n'y a pas eu un mort d'animal, une seule mort animale, une mort du bétail des Bnei Israël. Pourquoi est-ce que Paro est allé regarder ça? Parce que s'il y avait eu, le gars dit qu'il y a eu un miracle, et que les animaux ne sont pas morts, même de mort naturelle. C'était des très grands troupeaux, c'était normal qu'il y ait des animaux qui meurent. Mais ils ne sont pas morts. Hachem a empêché que les morts naturelles aient lieu parce que Paro aurait dit, « Ah bon, c'est rien, c'est une épidémie, il y a 3 cas à Goshen et 1 million de cas chez nous, mais bon, c'est la même chose. » Donc, il fallait qu'il ne puisse rien dire du tout. Ça doit être 0 contre beaucoup. Mais lui, il est allé, il aurait pu se renforcer en disant tout ça, c'est pas significatif. Il cherche encore à montrer que c'est pas significatif. Donc il va et ensuite, il jette la cendre en l'air et ça redescend avec des. Le monde entier est en. Ils sont tous frappés par des cloques. Les hommes, les femmes, les hommes, les bêtes, etc. Et du coup, personne ne pouvait se tenir debout, même. Les paroles n'ont toujours pas écouté. Donc, il renvoie Moshe au bord du fleuve. Et là, maintenant, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, ainsi tes serviteurs, ton peuple, pour que tu saches que nul ne m'égale sur toute la terre. J'aurais pu te frapper maintenant et te tuer complètement par la peste. Mais je t'ai gardé debout parce que je veux te montrer ma force et que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Tu piétines encore mon peuple, tu ne le laisses pas partir. Alors sache, je vais faire pleuvoir sur toi une grêle, du feu, une violence telle qu'il n'en a jamais eu jusqu'alors. Et donc, il faut rentrer tout le bétail, etc. Tout ce qui sera à l'extérieur va être exterminé. Alors, il y a eu des gens qui, forts de l'expérience, ils ont vu que quand Moshe annonce quelque chose, ça se produit, donc il y a des gens ils ont tout rentré. Et puis il y a des gens qui ne voulaient pas écouter et qui ne voulaient pas se faire vacciner. Ah non, qui ne voulaient pas rentrer le bétail, et bien, ils ont perdu leur bétail. Alors cette fois-ci, Paro, il a dit « J'ai péché cette fois, Hachem est le tzaddik et moi et mon peuple, nous sommes coupables. Implorez Hachem, il y a eu assez de tonnerre, de grêle, je vous laisserai partir, vous ne resterez pas davantage. » Donc bon, Moshe lui dit « Voilà, je vais sortir de la ville, je vais étendre mes mains vers Hachem, je vais prier, etc. Tout va sortir. Mais toi, je sais que vous ne craignez pas encore Hachem. Alors, ce qui était assez, qui avait assez grandi, a été détruit. Mais par exemple, le blé et les pôtres qui n'avaient pas encore, ils sont tardifs, donc ils n'ont pas été détruits par la grêle en question. Donc, quand ça s'est arrêté, évidemment, Paro a toujours refusé de laisser partir les Bnei Israël. Voilà, vous avez entendu donc les 7 plaies. Les 3 prochaines, c'est la semaine prochaine. Les 3 dernières, c'est la semaine prochaine. Alors, la question qu'on a avec toutes ces plaies, bon, c'est fait pour qu'on raconte la gloire d'Hachem, etc. Le problème, si vous voulez, enfin, la question que je voulais poser, c'est devenu un texte. C'est devenu un texte de la Torah. Comme tous les textes de la Torah, c'est un texte que nous avons à étudier et dont nous avons à nous inspirer. Si vous voulez, c'est de très peu d'intérêt. C'est pas vraiment très intéressant de savoir, OK, Hachem a manifesté des miracles, etc., en Égypte pour faire sortir les Bnei Israël, mais c'était pas du tout nécessaire. Il aurait pu envoyer directement la 10e plaie, effectivement, et probablement que ce serait ce qui se serait passé, la menace de la 10e plaie, enfin, éventuellement la 10e plaie, mais c'est aussi à cause des Bnei Israël qu'il a fallu du temps, en quelque sorte, pour que ça mûrisse chez les Bnei Israël aussi, que la démonstration soit faite complètement, bien qu'elle, et puis finalement, elle ne sera pas vraiment faite complètement, puisque, comme on a déjà dit, même les anges ne vont pas voir la différence. Passage de la mer, après tous les miracles, tout ça, les anges ne verront pas la différence entre les Égyptiens et les Bnei Israël. Ils vont dire à Hachem, de quel droit tu sauves cela et tu noies ceci. Et Hachem ne va pas donner une réponse très, très acceptable. C'est ce que j'ai déjà dit, c'est Hachem va dire les Bnei Israël, je les sauve parce qu'ils vont accepter la Torah. Mais on a déjà vu plusieurs fois, je rappelle juste pour mémoire, qu'on n'utilise pas le futur pour juger quelqu'un. Ben, cher ou cham, on juge les gens tels qu'ils sont. Et le fait de répondre que les Bnei Israël sont sauvés maintenant parce que demain, ils vont accepter la Torah, en soi, ce n'est pas une réponse. Ce qu'on peut dire, c'est peut-être que puisqu'ils vont accepter la Torah, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose en eux, mais qui n'est absolument pas visible, même pour les anges, ce n'est pas visible, la différence n'est pas visible, mais il y a néanmoins quelque chose. On peut dire que seul Hachem voit, qui est déjà le noyau à partir duquel ils vont pouvoir développer une acceptation de la Torah. Mais en vérité, ils ne vont pas vraiment accepter la Torah. Ils ont accepté la Torah sous la contrainte. Selon ton passe, c'est la Torah orale. La Torah écrite, ils l'ont acceptée, mais ça, ce n'était pas un problème. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'était accepter le Torah Balpé. Et ils ne l'ont pas accepté. Enfin, pas volontairement. Il a fallu attendre des siècles. Il faut attendre jusqu'à Esther et Mordechai. Jusqu'à Purim. Jusqu'à ce que les Bnei Israël touchent le fond du fond. Une solution finale. Extermination totale des Bnei Israël. Dans le projet d'Aman. À ce moment-là, ils vont accepter. Il n'y aura plus de contraintes. Mais, donc c'est très difficile. Alors, bon, c'est difficile. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, a priori, puisque c'est un texte, puisqu'on doit l'étudier, il faut se demander qu'est-ce que ça nous dit à nous. D'accord ? À la limite, il faudrait pouvoir prendre, j'utilise le conditionnel parce que je ne sais pas le faire En tout cas, pas sur toutes les. Pas aujourd'hui sur toutes les plaies, en fait. Mais toutes ces plaies, elles nous disent à nous quelque chose. Et on voudrait savoir qu'est-ce que ça dit. La première plaie, c'est la plaie du Nil changé en sang. Le Nil, on le sait, le Nil, c'est une divinité égyptienne, mais c'est le Nil qui donne à manger à l'Égypte. Le Nil, c'est le fleuve magnifique, un des plus grands fleuves du monde, si ce n'est le plus grand. Donc, il y a une marloquette, paraît-il. Et entre lui et l'Amazon, je crois. Enfin, peu importe, en tout cas, c'est au moins un des plus grands. C'est un très beau fleuve qui amène. C'est tout. Ça amène la joie, ça amène le bien-être, c'est sympa d'être au bord du fleuve, etc. Avoir un fleuve qui vous nourrit complètement. On est avant le barrage d'Assouan, hein. C'est bien avant. Donc, c'est tout, c'est extraordinaire. Mais en réalité, ce Nil-là, cette beauté du Nil, quand on y regarde un peu plus près, si c'était pour montrer aux Égyptiens que vous vivez grâce au Nil, mais je peux vous empêcher de boire le Nil, l'eau du Nil, vous pouvez leur envoyer des algues ou je ne sais pas, autre chose. Pourquoi est-ce que c'est du sang? C'est du sang parce que le Nil, il était complice. Quand Paro a décidé de noyer les garçons juifs, il a dit en catimini aux gens, si vous voyez un juif, vous pouvez le balancer dans le Nil. Et comme l'Égypte est un pays très avancé, les Juifs vont aller se plaindre. On dira, bien sûr, c'est un scandale, c'est des monstres, etc. Apportez des témoins, on va les juger. Mais évidemment, personne ne va témoigner pour les Juifs. Et donc, on a noyé systématiquement. On a noyé, on les a mis au fond de l'eau, je ne sais pas quoi, on a déversé leur sang dans... de tous ces juifs qui ont été noyés dans le magnifique Nil. Ce Nil, en fait, quelque part, la leçon, c'est quoi? C'est que la vérité, elle va quand même toujours sortir. Bon, le Nil, c'est une couverture. Ça permet à l'Égypte de faire disparaître les gens, et puis ensuite dire on est un pays où évidemment on va juger, mais on juge qu'avec des témoins, il n'y a pas de témoins. Donc ça ressemble beaucoup à ce qui s'est fait dans tous les États totalitaires, mais c'est une couverture. Donc la première leçon qui est donnée aux Égyptiens, ne vous imaginez pas qu'Hachem n'a pas vu ce que vous avez fait. Donc la première leçon, c'est une leçon pour nous aussi, c'est que finalement, la vérité, elle finira toujours par ressortir. Tu peux la cacher aussi longtemps que tu veux, peut-être ça peut durer très longtemps, mais la vérité, elle sortira. On ne peut pas cacher définitivement le shaker, il peut pas durer, ça peut pas durer. Bon, on voit que ça peut malheureusement durer assez longtemps. Et puis ensuite, il y a même des gens qui, aujourd'hui même, il y a des gens qui essayent d'empêcher qu'on sache la vérité, qu'on sait la vérité, mais on pourrait la savoir encore mieux. D'accord. Mais les Russes, ils ont interdit cette ONG, le mémorial. D'accord. Parce que ça montrait que ce qui se fait aujourd'hui, c'est tout à fait analogue à ce qui s'est fait sous Staline. Or, on n'a pas le droit maintenant. On supprime les critiques de l'époque stalinienne. Donc, le shaker, le mensonge du fameux petit père des peuples, etc., aujourd'hui, c'est clair, tout le monde sait que ce n'était pas vrai. Mais il y a une volonté de faire tomber une chape de plomb de nouveau pour essayer d'empêcher qu'on en parle parce que si on en parle, on se dirait, mais finalement, ce qui se passait, c'est très proche de ce qui se passe maintenant, etc. Donc, comme on veut cacher ce qui se passe maintenant aussi, alors on empêche. Mais bon, c'est déjà remonté quand même. Et on voit très bien qu'il y a tout un travail pour essayer toujours de cacher les choses. Mais ça ne marche pas, ça ressort. Donc, on pourrait dire, c'est pour nous aussi, la vérité, le émet, trouvera toujours son chemin. Un jour ou l'autre, ça pourra durer, mais un jour ou l'autre, la vérité, elle sortira. Et donc, il faut pas compter sur la possibilité de cacher les choses. On ne peut pas cacher éternellement. Ça finit toujours par sortir. Des fois, ça sort un peu trop tard. Mais, en tout cas, disons, peut-être ça, on peut dire, c'est une relativement bonne leçon. Je peux dire comme ça. Maintenant, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire des grenouilles. Nous, dans la Gemara, les grenouilles, elles sont présentées comme la Messirut Nefesh dans la nature, parce que dans le texte, c'est marqué que les grenouilles sont allées dans les fours aussi. D'accord. Ça veut dire que pour faire la volonté d'Hachem, elles sont allées se mettre en danger dans les fours. Donc c'est le calvaire des grenouilles, c'est un calvaire très connu, à partir duquel on dit que des jeunes gens qui étaient emmenés en captivité par les Romains et qui allaient servir ensuite pour réjouir les Romains, les filles, les garçons sont les filles, je crois, se sont suicidées, sont plongées dans la mer. Elles ont fait un calvaire à partir des grenouilles. Si les grenouilles ont fait le Messirut Nefesh, nous aussi on doit faire le Messirut Nefesh. Quelque part, disons, voilà. On va chercher plus loin, il y a cet exemple-là. Il y a donc la vérité, le problème de la vie, c'est très, très important, mais il y a quelque chose qui est plus important que la vie, c'est, disons, la qualité de la vie, quoi. Qu'il y a une qualité, il y a une vie dont on peut se demander si elle vaut la peine d'être vécue. Et ça, c'est un grand problème. Là, on voit que dans certains cas, il y a un inyan qui le chachem. Ensuite, le kinim, l'époux. C'est-à-dire, c'est la terre elle-même qui s'est changée. Ça veut dire que la terre, qui est quand même, qui est le terreau, ce qui va permettre que les choses poussent, bon, c'est pas ça toute seule, mais il faut le soleil, il faut de l'eau aussi, mais il faut la terre. Mais il y a des situations où on peut, ce qui normalement devrait aider à construire, devient un parasite. Toute la terre est devenue un parasite. C'est-à-dire, il y a une façon d'utiliser la terre. La terre devient un parasite. Une conduite, si vous voulez, qui n'est pas respectueuse de la terre. Où la terre elle-même va produire des parasites. C'est bon, alors est-ce qu'il faut mettre ça en rapport avec la Shemitah, etc. ou pas? Je vous laisse chercher. Après, on a les bêtes sauvages. Ça veut dire que si on... Pourquoi les bêtes sauvages? Parce que les Égyptiens, ils ont assigné au Bné Israël la tâche d'être berger de bêtes sauvages. Ça veut dire quand tu mélanges les bêtes domestiques et les bêtes sauvages, tu ne fais plus la différence entre, tu mets plus chaque chose à sa place, alors ça devient n'importe quoi. Ça dévaste complètement la terre, ce qui était écrit sur les bêtes sauvages. Donc l'importance de mettre chaque chose à sa place, de veiller le sauvage, c'est pas fait pour être domestiqué. Il y a les bêtes domestiques, il y a les béhémotes et il y a les chayotes. Tu as des béhémotes qui sont là, qu'Hachem le permet de les utiliser pour ça, mais à part ça, il faut laisser les bêtes sauvages dans leur état. On veut les laisser, elles ont une fonction. Etc. Donc, si vous voulez, on peut essayer de voir ce que ça nous donne, me semble-t-il. C'est quelque chose qu'il faudrait essayer de faire un peu plus avant, d'ailleurs. Plus clairement. Et on voit aussi très clairement dans cette paracha que la transmission qui est très importante, mais et la communication, elle, il faut pas oublier que il faut à la fois que l'émetteur émette dans une fréquence qui est audible et qui est un récepteur. Et donc, il faut se préparer à être réceptif. Hachem nous parle dans la Torah, il nous parle dans l'étude, il nous parle dans le monde, dans les lois de la nature, toutes sortes de manières Hachem parle. Mais il faut être réceptif. On peut être dans une position où on n'entend rien. Et aujourd'hui, les gens s'imaginent que parce qu'ils donnent une explication à des phénomènes, alors, c'est fini, il n'y a plus besoin d'écouter. Mais les phénomènes, ils nous parlent indépendamment des explications. Un coucher de soleil, c'est toujours un coucher de soleil, même si tu sais décrire physiquement ce qui se passe, un coucher de soleil. Il y a ce que je ressens dans l'immédiat. Je ne ressens pas obligatoirement les choses telles qu'elles sont en vérité. Dans la vie courante, vous n'expérimentez pas que la Terre n'est pas plate. Tout le monde sait que la Terre n'est pas plate. Mais on ne l'expérimente pas dans la vie courante. C'est-à-dire que sur un terrain de football, il n'y a pas une équipe qui est avantagée parce que la balle, elle roule mieux dans un sens que dans un autre. La Terre, elle est plate à cette échelle-là. On l'expérimente comme telle, même si on sait que ce n'est pas comme ça. On sait bien que la Terre, elle tourne autour du Soleil, mais nous, on voit personne ne vous parle d'autre chose que d'un lever du soleil, d'un coucher du soleil, mais le soleil ne se lève pas, il ne se couche pas. Mais ce qu'on voit, ce qu'on expérimente. Donc, ça parle. Tout le monde parle, ah, magnifique coucher de soleil. Pourquoi c'est magnifique? Je vais te dire exactement comment ça se passe. Ce qui se passe devant toi, là. Je vais te le décrire. Pas du tout. Les vibrations d'un Stradivarius, ou je ne sais pas quoi, on peut les décrire. On sait comment, pourquoi ça vibre et comment ça vibre. Qui n'empêche. Donc, il y a comme c'est une espèce de perte de richesse, parce qu'on s'imagine que parce qu'on comprend les choses, on comprend certaines choses, du coup, ces choses ne nous parlent plus, ne nous disent rien du tout. Mais on dit « Hashamayim saprim kvod kel » mais se raconte la gloire d'Hashem. À quoi vous pensez quand vous dites ça? Le ciel vous raconte la gloire divine? On a un peu perdu cette... On n'entend plus. C'est important d'entendre que raconter la gloire divine. Donc, ce qui nous est donné ici, c'est il faut être réceptif, il faut apprendre à écouter. Mais pas seulement à écouter les autres, bien sûr, il faut écouter les autres. Ils ont besoin d'être écoutés. Et ensuite, évidemment, il y a un problème de filtre. Qu'est-ce que je veux écouter? Qu'est-ce que je ne veux pas écouter? Même chose dans ce qu'on voit, il faut aussi filtrer ce qu'on voit. Ça circule au nom du Baal Shem Tov, mais c'est déjà plus ancien aussi, qui dit que tout ce que tu vois, si tu vois quelque chose, tu dois te dire, si je l'ai vu, si Hachem a voulu que je le voie, c'est que j'ai quelque chose à en tirer. Ah oui, sota avec le coula, il y a ziras mominayain. Tu vois une sota dans son... quand elle est dégradée, comme ça, il y a une conclusion à tirer. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, l'idée qu'il y a une conclusion à tirer, elle est claire, elle est clairement marquée. Il y a Zirat Smominayay. Donc voilà, tu as vu quelque chose, tu ne peux pas dire, ah, c'est par hasard, je passais là, je l'ai vu. Non. Si tu l'as vu, c'est que tu devais le voir. C'est-à-dire que même si des fois tu vois des choses et tu dis, j'aurais pas dû voir, etc. Mais quelque part, tu as voulu le voir. Et je veux que tu prennes une leçon de ce que tu as vu, etc. Mais pour ça, il faut être réceptif. Et là, on voit très bien, Paro, il n'est pas réceptif de Moshe, ce que Moshe veut lui dire. Alors, j'aime faire en sorte qu'il puisse entendre. L'émetteur va changer. L'émetteur, c'est Aaron. Mais il ne veut toujours pas entendre. Alors, on augmente. Alors, il entend, mais il n'en tire pas les conséquences. Oui. On peut même penser que il dit oui, mais après, les Sahara disent, ben non, quand même. Il va finir par dire oui. Quand on va lui dire ils sont partis pour plus que 3 jours, il va aller les chercher, les Bnei Israël. Alors ça va lui coûter son armée. Mais bon, il a essayé. Il les a laissés partir, mais on peut dire oui, il a laissé partir pour 3 jours. Il aurait dû comprendre qu'il partait définitivement. Puisque Moshe Rabbeinu lui a fait libérer les esclaves. S'ils allaient revenir au bout de 3 jours, ils allaient libérer les esclaves. Mon cher dit, non, mais on ne part pas avant que tu aies libéré les esclaves. Déclaration, moi, Paro, je libère les Bnei Israël de l'esclavage. Sinon, comme dit la Gada, Areanu, Bnei Banenu, Meshubadi, Maïnu, le Pharaon de Mitzraïm. On serait encore aujourd'hui dépendant de Paro. Il ne pourrait rien faire sur nous, les descendants de Paro, mais de facto, on serait encore esclaves, formellement, s'il ne nous avait pas libérés. Maintenant, si tu les as libérés, tu sais bien qu'ils ne vont pas revenir. Sinon, ben, ça les libère. Il faut entendre. Il faut... Le problème, c'est qu'on ne veut pas toujours entendre. On ne veut pas toujours voir ce qu'on a vu. J'ai vu, mais je n'ai pas tiré les conclusions. J'ai été frappé sur le moment. Ben, c'est quand même étonnant. On a vu aujourd'hui, on a vu 7, mais il y en a 10 de ces Makot. C'est des miracles évidents, non? Tous les Juifs, tous les Hébreux ont vu tous ces miracles. Et 80% des gens ne bougent pas. Les miracles, ça fait bouger personne. Parce que même les 20% qui sont sortis, dès qu'il y a un petit problème, on retourne en Égypte. Tu veux retourner en Égypte? Tu n'as pris aucune leçon de tout ce que tu as vu. C'est, le Rambam dit les miracles, ça ne sert à rien. Parce que c'est éphémère. Ça m'était arrivé. Je me souviens quand les Scud tombaient sur Eretz Israël, la peur qu'on avait. On avait deux enfants qui étaient là-bas. Notre fille Sarah, elle est entrée avec son bébé dans le Reder Atum, là. Elle ne savait pas si elle allait sortir vivante ou pas. Parce qu'on croyait à ce moment-là que dans les Scud, il y avait des produits chimiques, etc. Et nous, on était à distance, on était en France. C'est insupportable de voir des enfants et tu ne peux pas. Ils vivent quelque chose que toi, tu n'as jamais vécu non plus. Donc, tu ne peux même pas, même si tu arrives à leur parler, tu ne peux rien leur dire. Tu n'as pas d'expérience ou pas leur. Et donc, c'est des miracles. Le nombre de scuds qui sont tombés, qui n'ont quasiment pas fait de victime, une victime. Alors qu'il y a un scud qui tombe sur un campement américain et qui fait des dizaines de morts. Sur le moment, on était choqués, etc. Et l'année d'après, je suis entré pour donner shiur et j'ai vu la première page du Monde qui disait que c'est l'anniversaire des Scud. Je me suis dit, ça. Je ne vois pas cette page-là. Complètement oublié. On a vécu des choses extraordinaires et un an plus tard, je ne suis pas fichu de m'en souvenir. Au moins pour dire quelques mots. Bon, je les ai dit parce que j'ai vu. Je n'aurais pas vu le journal. Je n'y ai plus pensé. J'aurais dû l'écrire dans mon calendrier, c'est vrai, mais je ne l'ai pas écrit. Pourtant, c'est un miracle énorme. En tout cas, moi, je considérais ça comme un miracle. Donc, de façon cohérente, j'aurais dû m'en souvenir. Les miracles, c'est très éphémère.
Rav.
Oui.
Pourquoi, à ce moment-là, Hachem est intervenu avec des miracles?
Il a voulu marquer les Égyptiens, il a voulu expliquer, sur le moment, en tout cas, ça devait les faire bouger. Le problème, c'est que sur le moment, ça devait nous faire bouger aussi, mais nous, on a été pris par par la sortie elle-même, disons. Et maintenant que c'est devenu que je disais, c'est que visiblement, ça n'a pas duré, ça ne marche pas, mais parce qu'on n'a pas voulu écouter. C'est un problème. Paro, il n'a pas voulu écouter, mais nous non plus, on n'a pas voulu écouter. Nous non plus, sinon il n'y a pas 80% des gens qui refusent de sortir.
Oui, mais HM, c'est bien que c'est éphémère et que ça n'a pas un impact durable, etc. Et si, vu l'enjeu, peut-être qu'on pourrait se dire qu'il aurait pu intervenir autrement pour que ça soit plus durable. Est-ce que c'est la solution la moins pire? Est-ce que c'est qu'est-ce qui
c'est
fait
peut-être que c'est peut-être que HM a décidé que c'est nous qui devons faire un travail. Ça marche pas tout seul. Mais c'est pour ça que pour nous, le problème, c'est pas le miracle, mais c'est le récit qui est fait. Parce qu'on peut se demander pourquoi c'est devenu Torah, tout ça. C'est pas fondamental d'avoir le détail. Est-ce que j'ai besoin à chaque fois de me dire que c'était au bord du Nil, parce que, etc. Ça change quoi que c'était au bord du Nil? C'est possible que ça change, mais que je ne sache pas ce que ça change, puisque c'est de la Torah. Mais tout dans la Torah, tous les mots de la Torah sont significatifs. Alors qu'est-ce que je fais, moi, de tout ce que je vous ai raconté là ce soir? Bon, je vous ai dit quelques petites choses, mais c'est quoi ces Makot? Bon, on arrive sur les quelques premières. Vous avez quelque chose à dire, mais est-ce que c'est vraiment ça? Donc, c'est juste une invitation à ce que vous réfléchissiez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va en avoir trois encore la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine, il y a déjà la rose des chassés, la crème. On va déjà passer quasiment à autre chose.
Peut-être que quel serait pour nous, à notre époque, l'équivalent de la magie? C'est-à-dire qu'on voit bien que les premières macottes, il y a une sorte de la magie est présente, puisque les magiciens sont là, comme un Elohim, comme une puissance qui serait le paradigme du faux, c'est-à-dire de l'absence de vérité. Et chez nous, qu'est-ce qui serait l'équivalent de cette magie à notre époque qui nous ferait croire qu'on a cette puissance qui est totalement fausse?
Mais ce n'est pas complètement faux que on a une certaine puissance. Mais il faut savoir que c'est toute la réussite technologique qui joue le rôle de magie aujourd'hui. On peut le faire aussi, on arrive à le faire. C'est-à-dire, on va démonter la démonstration. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait la même chose que ce que Moshe a fait sur l'ordre d'Hachem. Nous, on sait le faire aussi. OK, c'est ce que je vous disais avant. Voilà, je comprends, je sais ce que c'est un coucher de soleil. Je sais ce que la Terre, elle tourne autour du soleil et pas le contraire, etc. Et du coup, j'entends plus les choses. C'était le but de l'exercice, démonter, faire qu'on n'entende plus. Hachem envoie un message et les Khartoumim, les magiciens, ils disent, nous aussi, on sait le faire, donc il n'y a pas un message. Il n'y a plus de message. Mais au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Maintenant, il y a vraiment un message. C'est ce qu'ils disent. Eux, ils sont honnêtes, d'une certaine manière. Là où ça nous dépasse, c'est vraiment... C'est le doigt d'Elohim, disent-ils. Et Paro, il n'écoute quand même pas. Il n'écoute pas ses magiciens. Il y a des moments où on n'écoute pas les gens qui sont susceptibles de vous dire des choses qui vous bouleverseraient, qui vous obligeraient à changer certaines choses, qui peut-être même vous amèneraient à mieux réaliser votre but.
Mais là, en l'occurrence, pardon.
Oui.
C'est Hachem qui durcit l'entendement de Pharaon.
Non, il le fait seulement après que Paro lui-même, dans les premières, il veut pas écouter. Et à ce moment-là, les coups deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Et il va céder à cause des coups. Alors Hachem lui donne un antidouleur, si vous voulez, qui lui permet de supporter les coups et qui le remet dans une situation de choix véritable. Il n'a plus le choix à cause des coups. Il va céder. Mais comme Hachem veut, en fait, son compte personnel, il est terminé maintenant. Paro, c'est un pion dans la démonstration qu'Hachem veut faire. Hachem veut faire une démonstration de sa toute-puissance. Il a encore besoin de Paro. Alors, il lui donne la possibilité de résister, alors que artificiellement, parce qu'il lui donne des antidouleurs, alors ça lui fait plus assez mal. Et donc, comme quand ça faisait pas mal, il résistait. Maintenant, il continue de résister.
Mais donc
Mais bon, c'est pas.
ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir lui laisser le libre arbitre. C'est simplement
Non,
qu'il voulait faire.
il a eu le libre arbitre jusqu'à un moment. Et après, à partir du moment où c'est devenu, les coups sont trop forts, Hachem a compris que ça y est, maintenant il va céder. On voit dans ses réponses, il va céder, mais il va céder à cause des coups. Donc c'est pas vraiment. Bon, c'est tout, on aura le résultat, mais c'était pas comme ça qu'Hachem voulait que ça veut que ça se passe. Et surtout, puisque il est entré dans une démonstration, il va terminer la démonstration. Et pour terminer la démonstration, il a besoin de Paro comme un pion. Alors il le met comme un pion. Il lui donne la force de résister, c'est tout. Mais ensuite, alors il choisit, mais on ne peut pas considérer que c'est un vrai choix. Il choisit le mal, mais parce qu'on l'a aidé en quelque sorte à continuer de choisir le mal.
Mais cette
Parce qu'au fond de
démonstration,
lui-même, c'est ce qu'il voulait.
puisqu'il était prêt à céder Paro, on a l'impression que la suite, à partir du moment où il veut terminer sa démonstration,
Hachem veut montrer
c'est
sa
pour enclencher.
toute-puissance
Oui,
partout,
mais.
sur terre, sur mer et dans les airs.
Oui, mais
Et
si.
donc, il n'a pas terminé la démonstration. Et Paro va céder parce qu'il va céder à cause des coups.
Mais s'il a cédé à cause des coups, c'est qu'il a quand même démontré sa démonstration. Il a quand
Non,
même
mais pas.
démontré sa puissance, puisqu'il va. Il...
Mais non, c'est pas. Le but, c'est pas. Si c'était pour montrer qu'il était plus fort que lui, il avait qu'à lui envoyer la dixième plaie comme ça a été annoncé au tout début. Moshe a dit à
D'accord.
Paro, il a dit Bni Bechori Israël, Hachem a dit que Israël, c'est mon Bechor. Si tu laisses pas partir mon Bechor, je tue le tien. Pourquoi Hachem n'a pas tout de suite appliqué ça? On voit la dixième plaie terminée. C'est fini, c'est sûr qu'il va céder là-dessus. Il ne peut pas résister parce que ça casse l'Égypte. Mais Hachem a. Bon, pour d'autres raisons, Hachem a décidé que ça ne se passerait pas de cette manière-là. Et donc maintenant, il fait la démonstration et il va jusqu'au bout de la démonstration. Ça, c'est pourquoi il veut faire cette démonstration, j'en sais rien. Il voulait monter sa toute-puissance face au Goïm, face à l'Égypte qui croit que elle est la puissance dominante et que c'est elle qui montre sa puissance. Monter, non, ça marche pas. Il suffit pas qu'il se plie parce que ça fait mal. La démonstration sera pas complète. Il faut montrer tout ce qu'Hachem Kvayachol est capable de montrer à l'Égypte. Et du coup, à nous aussi, sous forme d'enseignement. Et c'est pour ça que je me dis, je ne sais pas exactement ce que je peux comprendre de cette démonstration. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose à comprendre, mais je ne sais pas, je ne suis pas à même de. Je vous ai dit quelques petites choses, mais il faudrait une vraie compréhension de la totalité. Peut-être qu'il y en a. Il faudrait que je revérifie dans le Maharal. Peut-être que le Maharal parle. Fait une démonstration complète, je ne sais pas. Le Maharal dans Gvorot HaShem, qui est consacré entièrement à ça, la sortie d'Égypte, peut-être qu'il y a. très vraisemblable qu'il doit, il va donner les éléments. Mais est-ce que on comprend que c'est pour nous, quoi? Le problème, c'est qu'est-ce que ça me dit à moi? La toute puissance d'Hachem, j'ai compris. On le voit très bien. Mais qu'est-ce que ça me dit concrètement à moi? Donc, quand j'étudie ça, moi, ça doit me parler à moi. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, le problème de la vérité, le problème de la Messuot Nefesh, etc., de l'importance de mettre chose, chaque chose à sa place, etc. Bon, ça, c'est très important. Maintenant, il faut expliquer, expliquer les autres aussi. Peut-être c'est pas si difficile que ça. Je sais pas. J'ai pas terminé même les quelques points qu'on a dit. J'ai pas été jusqu'à la dixième. Mais peut-être ici Shabbat. Ok.
Merci.